Truffaut a souffert et souffre encore, je crois, d'une piètre image de metteur en scène, malgré sa notoriété, malgré la cote qu'il a un petit peu partout. C'est souvent un cinéaste au thème duquel on s'intéresse, au personnage duquel on s'intéresse, etc. Mais on le prend souvent pour un piètre metteur en image, en définitive. Et c'est de ce côté-là que je suis allé chercher. Voilà, alors l'écrit et la littérature ont tenu pour Truffaut une très grande place, vous en avez évidemment sûrement parlé, non seulement dans sa formation, ses goûts, ses aspirations, mais dans ses références et l'organisation dramatique de ses films. Mieux encore, c'est le fait d'écrire qui occupe une place inhabituelle dans ses fictions ou ses adaptations. Alors que ses personnages n'y sont pas sociologiquement prédestinés, n'appartenant pas en général au milieu intellectuel et germano-pratin, dont on dit souvent qu'il a sa place réservée dans le cinéma français, on ne compte pas ceux qui trouvent dans l'écriture une forme d'accomplissement, voire de rédemption. Claude dans Les Deux Anglaises, Antoine dans L'Amour en fuite, Morane dans L'Homme qui aimait les femmes font de leur vie des livres, tandis que d'une manière obsessionnelle, le docteur Itard dans L'Enfant sauvage et Adèle dans L'Histoire d'Adèle H noircissent les feuillets d'un journal. Il est déjà étrange de vouloir filmer quelqu'un qui écrit. Rien de moins spectaculaire, rien de moins dramatique. Il y a sans doute chez Truffaut un effet d'époque à vouloir pousser ainsi l'expression cinématographique dans ses derniers retranchements. Une influence sans doute du journal d'un curé de campagne, de Robert Bresson, du roman d'un tricheur, de Sacha Guitry, ou peut-être même, plus lointainement, de Lettres d'une inconnue de Max Ophüls. De ces cinéastes qu'il admire parce qu'ils inventent une écriture avec leurs images, parce qu'ils ont avec leur caméra la liberté que l'on peut avoir avec des mots. Mais il y a aussi évidemment un tropisme personnel, une foi constamment réaffirmée dans l'efficacité de l'écriture, on dirait aujourd'hui dans sa performativité, dans l'impact des mots, dans l'effet du texte. Truffaut aimait filmer les livres, aimait filmer les mots, mais il était surtout, je crois, à la recherche de leur puissance mystérieuse, de ce qui faisait leur force. Dans Jules et Jim, voici comment est enjolivée la rencontre de Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès, rencontre, vous le savez, réelle, hein, qui occupe une grande place dans la biographie d'Apollinaire. Je cite ce dialogue de Jules et Jim, c'est un personnage qui raconte l'histoire d'un de ses amis. En revenant de permission, il a rencontré une jeune fille dans le train. Ils se sont parlé entre Nice et Marseille. En sautant sur le quai de la gare, elle lui a donné son adresse. Eh bien, pendant 2 ans, tous les jours, il lui a écrit frénétiquement, depuis les tranchées, sur du papier d'emballage, à la lueur des bougies. Même quand les obus pleuvaient, des lettres de plus en plus intimes. Et puis le personnage continue à décrire cette correspondance, qui est donc la correspondance, plus encore une fois, enjolivée d'Apollinaire. « Voyez-vous, Jules, pour comprendre cet extraordinaire dépucelage par correspondance, il faut avoir connu toute la violence de la guerre des tranchées, cette espèce de folie collective et cette présence de la mort minute par minute. » Fin de citation. Comment peut-on séduire? Comment peut-on aimer? Comment peut-on dépuceler à distance? Qu'est-ce qui passe dans les mots qui ne se soucie pas de la présence physique et que l'on pourrait donc peut-être traduire en images, dont on pourrait trouver non pas l'équivalence, mais une dynamique propre, visuelle, qui en rende compte. Cet exercice périlleux, implicite, chaotique, le cinéaste va le tenter à propos des échanges épistolaires. Parmi les écrits qui hantent ces films, les livres et journaux que nous avons cités, parmi tous ces écrits, ce sont les lettres en effet qui représentent le type le plus fréquent. Elles ne sont parfois que fonctionnelles, anecdotiques, quoique leur accumulation en elle-même ne puisse plus l'être à la longue, ne puisse plus être anecdotique, mais la plupart du temps, elles accompagnent ou provoquent des moments éminemment dramatiques. Elles ont un rôle narratif essentiel, elles constituent des nœuds de l'action et n'en sont pas seulement les véhicules, mais leur traitement scénaristique et plastique me paraissent en définitive assez différents l'un de l'autre. Les 3 grands films dans lesquels les échanges épistolaires occupent une place importante et font l'objet de traitements variés sont des films qui appartiennent à ce que Nestor Almendros, le chef opérateur, l'un des chefs opérateurs réguliers de Truffaut, appelait la veine calligraphique de l'œuvre de Truffaut. La veine calligraphique, c'est-à-dire des films en costume, dans lesquels le travail sur la lumière, les couleurs, les décors, est un travail particulièrement soigné, précis et visible. En l'occurrence, il s'agit donc de Julie Jim, des deux Anglaises. Alors je dis les deux Anglaises, hein, le film est sorti sous le titre « Les deux Anglaises et le continent ». Et puis Truffaut a consacré les derniers mois de sa vie, au début des années 80, à refaire le montage de ce film et l'a ressorti sous le titre « Les deux Anglaises » simplement. Donc Julie et Jim, les deux Anglaises et l'histoire d'Adélage. Si les deux premiers sont des adaptations de Henri-Pierre Rocher, qui lui-même avait du goût pour les correspondances, le troisième est un scénario original, commandé et supervisé par Truffaut, comme il avait l'habitude de le faire, ce qui élimine l'hypothèse d'un dispositif fortuit et imposé de l'extérieur. En termes narratifs, les lettres sont essentiellement utilisées comme des accélérateurs de récit. En quelques mots, sont énoncés plusieurs faits majeurs, une mort, une naissance, une décision irrévocable de rupture. Informations dont la violence ou la soudaineté sont accentuées par le contraste d'une narration décalée qui use d'un autre temps, qui transpose le drame, qui le déplace. L'effet de ce qui est passé revient dans le présent de la lecture et le présent de l'écriture se perd dans le temps de l'envoi. On retrouve là, évidemment, toute la subtilité et les passions glacées des romans épistolaires. Mais ces accélérations ne sont pas systématiques. Elles adviennent comme des fulgurances, après que d'autres lettres, au contraire, ont favorisé les descriptions étales. Dans les deux Anglaises, par exemple, les premières lettres font état des activités quotidiennes, des conditions de vie au pays de Galles, et elles sont d'ailleurs associées, on le verra, à une mise en image qui tient davantage de la nature morte que d'un mouvement fébrile. Toutes les premières lettres des deux Anglaises sont des lettres qui sont accompagnées de mouvements de caméra descriptifs, on pourrait dire, de scènes qui n'insistent pas tant sur l'écriture que sur son contexte. Puis les missives ne sont plus descriptives ni sereines, mais violentes, passionnées, définitives. Je cite « Ce papier est ta peau, cette encre est mon sang, j'appuie fort pour qu'il entre ». C'est Muriel qui déclame cette phrase, cette formule qui était déjà dans Julie et Jim et qui est devenue fameuse. Comme si les lettres, plutôt que de parler de l'amour physique, pouvaient rendre compte physiquement de l'amour, pour paraphraser une autre formule fameuse du cinéaste à la sortie de son film. Je fais allusion à un entretien que Truffaut a donné à l'avant-scène cinéma à la sortie des deux Anglaises où il dit, je cite, « J'ai essayé de faire un film non pas d'amour physique, mais un film physique sur l'amour ». Fin de citation. Cette violence, donc, est surtout une fulgurance. Truffaut joue à ce moment-là de la vitesse, de la précipitation, d'une brusquerie des informations qui passe par un découpage nettement plus sec, une intonation péremptoire des acteurs et actrices, une tonalité musicale différente. Dans les marges du roman de Rocher, le cinéaste a écrit en vue de l'adaptation, je cite, « Amour, amour, les chiens sont lâchés, à partir de là, il faut aller très vite ». Fin de citation. C'est une remarque écrite à l'encre rouge qu'on voit dans le générique du film. Amour, amour, les chiens sont lâchés. À partir de là, il faut aller très vite. C'est une recommandation pour son co-scénariste. C'est ce qui se passe. Et ce sont les lettres qui en fournissent en partie le moyen. D'autant plus que Truffaut force les faits en juxtaposant d'un courrier à l'autre des informations contradictoires. Dans les deux Anglaises, l'annonce d'un bébé à venir précède ainsi de quelques secondes son démenti. Dans l'histoire d'Adèle H, l'annonce de son mariage par Adèle est suivie de la réponse de Victor Hugo qui en dénonce le mensonge. Les sentiments se heurtent ainsi, les actions vont à U et à Dia sans que le temps de leur déroulement, la durée de la correspondance, ne soit manifesté et pris en compte. De telles scansions du récit, un tel morcellement heurté des histoires, rappellent les effets de montage dont Truffaut est friand dans la première partie de sa carrière. Des arrêts sur image, de brusques raccords dans l'axe, une succession de plans saccadés le montage des premiers films de Truffaut, on l'a un peu oublié au profit de celui de Godard, joue de temps manipulé, d'instants arrêtés, de durée bousculée, d'indécision et de précipitation. C'est le rôle que le cinéaste alloue précisément à la correspondance dans la trame narrative des films qui nous occupent. Et si le montage, au sens où l'entend la nouvelle vague et où elle le pratique, est un aspect essentiel de la modernité, on peut estimer que la correspondance filmée est, d'un point de vue narratif et dramatique, la grande forme moderne de Truffaut. Narratif et dramatique, parce que cette correspondance permet au cinéaste d'imposer des images et une logique iconographique qui vont bien au-delà des dispositifs romanesques ou des artifices du récit. Les accélérations, les révélations, les coups d'arrêt que les lettres permettent ne sont en effet qu'une des facettes de ces dernières, peut-être la plus visible, y compris aux yeux du réalisateur. Mais il y a aussi une façon de mettre en image, une manière de faire figure de ces lettres qui fait d'elles le motif étonnant d'une dimension essentielle de l'œuvre truffaldienne. Le cinéaste varie sans cesse la façon de filmer l'échange de lettres. On voit le scripteur ou le lecteur, on les voit écrire ou lire, ou bien réciter la lettre face à la caméra, on les entend en voix off, etc. Mais il y a en gros trois types de scènes qui correspondent à trois figures épistolaires, trois mises en image de celui ou de celle qui écrit, lequel est beaucoup plus important dans le principe que celui ou celle qui reçoit et lit les lettres. La première, donc, c'est une forme qui s'attache au contexte de l'écriture. Elle délaisse l'acte d'écrire pour s'attarder sur le moment et le lieu de l'écriture. Elle est de l'ordre de la description et prend ses distances avec la spécificité du geste scriptural. C'est le cas des premières lettres envoyées par Claude à sa mère au début des deux Anglaises. Elles accompagnent des panoramiques lents, des natures mortes attachées au décor d'un salon ou d'une chambre à coucher. Le contenu des images, comme celui des lettres lues en voix off, est anecdotique. La caméra en oublie et le scripteur, et sa main, et l'encre, et le papier, autant dire, et le sang, et la peau. Ne reste que l'accessoire. La lettre est ici purement fonctionnelle, et pourtant elle amorce un trait spécifique. Elle ouvre une série qui, progressivement, dans le film, aura son autonomie et développera sa puissance propre. Comme si, enclenchant un mécanisme qui leur échappe, les épistoliers faisaient naître une phénoménologie singulière. Ils provoquent des images. C'est une qualité du verbe. Mais dans la situation de celui qui écrit, ces images sont éclatées en de multiples facettes. Il y a, nous l'avons vu, ce que disent les mots au moment où ils sont écrits, ce qu'ils disent au moment où ils sont lus. Et il y a, dans le film, la narration de ce décalage. Il y a l'effet sur le lecteur, l'effet sur le scripteur, il y a surtout ce que portent les mots du fait d'avoir été écrits. Les images qui naissent dans les films de Truffaut, du fait de la correspondance, sont des images de ce geste, de ce moment, dans la complexité de la décision et de ses conséquences, du sortir de soi, de l'adresse à l'autre et de l'action solitaire. C'est à ce nœud complexe de situations et d'images qu'échappent précisément les panoramiques nonchalants sur les accessoires du décor. Panoramiques dont je vous rappelle qu'ils occupent la première partie du film. Les deux Anglaises racontent la découverte progressive de la gravité sous l'apparence superficielle des moments, en particulier les dernières scènes dans le jardin du musée Rodin, auquel tu as fait allusion tout à l'heure avec la statue de Balzac, raconte la découverte progressive de la gravité sous l'apparence superficielle des moments. Il faut donc bien que cette surface des choses et des sentiments commence par être montrée. C'est le rôle de cette première série d'images, parfaitement intégrées à la diégèse et à ses dispositifs de représentation. La deuxième série, elle, est productrice d'images autonomes mais endogènes. Elle utilise des surcadrages qui confèrent aux auteurs des lettres une place particulière. À l'écran, c'est comme s'ils occupaient un cadre à part, un espace privilégié et peut-être ostracisé. ceux qui écrivent des lettres sont distingués à l'écran en formant une image dans l'image. C'est le cas dans l'histoire d'Adèle H et à deux reprises dans les deux anglaises où les personnages, toujours féminins, font image au moment où ils écrivent. Muriel apparaît ainsi dans le cadre d'un miroir alors qu'elle énonce le contenu de sa lettre. Puis, beaucoup plus tard dans le film, toujours disant sa lettre, elle est surcadrée par le montant d'une fenêtre. Au moment d'écrire, donc, le geste de la main est remplacé par la parole, par l'énonciation face caméra, mais c'est comme si ce geste trouvait précisément à se traduire à l'écran par la formation d'une image autonome. Le visage ou le buste de celle qui écrit, frontalement cadré, particulièrement représentatif, se détache du flux représentatif continu pour instaurer une réalité différente, pour créer une figure indépendante. Muriel, comme Adèle, ont l'air de se parler à elles-mêmes. Dans le miroir, comme dans l'encadrement de la fenêtre, elles deviennent images pour nous, sans doute, mais aussi pour elles-mêmes. Écrivant à l'autre, au père, à l'amant, elles s'écrivent à elles-mêmes. Lui parlant, elles se parlent. Le cinéaste transforme ainsi la relation épistolaire en une sorte d'introspection, comme si la voix qui tentait de rejoindre son correspondant rebondissait toujours sur le papier, comme sur un miroir. Au-delà du journal intime, de l'aveu à soi-même, ces femmes se dédoublent dans le geste d'écriture, comme leurs images se dédoublent et se détachent de l'écran. Dans Adèle H, une scène est symptomatique lorsque la jeune héroïne divulgue au charlatan l'identité de son père. Elle trace le nom de Victor Hugo sur la poussière d'un miroir. Et là encore, les mots se retrouvent dans un cadre, font image, alors qu'en même temps ils s'adossent à ce miroir, destiné à revenir d'abord vers celle qui les a tracés. Alors que la voix se serait élancée, se serait perdue vers l'autre, les lettres sur le miroir sont d'abord destinées à faire réflexion, ce qu'ils font effectivement, puisque le visage d'Adèle apparaît quand elle efface le nom de son père. Cette figure, nous l'avons noté, ne concerne jamais les hommes. Pourtant, Claude écrit beaucoup, lui aussi, reçoit des lettres, participe activement au réseau de correspondance épistolaire. Mais à aucun moment, Truffaut ne lui donne à occuper un espace pictural ou graphique coupé du monde extérieur. Ni cadre, ni cloisonnement qui le dédoublerait comme image. Ni couleur, ni fond qui le détacherait comme figure. D'ailleurs, Claude ne s'enferme pas dans sa correspondance, comme le font ses interlocutrices. Il fait lire à sa mère les lettres qu'il reçoit ou qu'il envoie. Il ouvre à d'autres l'espace de leurs effets performatifs. Mieux encore, si chez lui l'acte d'écrire fait image, ce n'est pas d'un reflet qu'il s'agit, mais d'une image extérieure. Lors d'une scène assez énigmatique, on voit en effet Claude écrire à sa table, et pendant que la voix off énonce le contenu de la lettre, la caméra s'élève vers un tableau. Au moment où il écrit, je cite, « Je vous imagine comme une épouse avec un enfant dans un foyer à nous, cette image m'absorbe », fin de citation, c'est ce qu'on entend par le fait de la voix intérieure, Truffaut absorbe à son tour le geste d'écrire dans le cadre du tableau. Claude est extérieur à ses lettres. Elles sont pour lui un mode de transmission, transmission de ses images, de ses dispositions, mais jamais elles ne se referment sur lui, jamais elles ne provoquent ce que l'on pourrait appeler des images de l'écriture. Le contenu de ses lettres fait image, mais pas l'acte d'écrire. Les personnages masculins sont d'ailleurs définitivement chassés de la troisième figure épistolaire, pourtant repérable dans les trois films, dans lesquels, autant que Claude, Jim et Jules écrivent des lettres et seraient donc susceptibles de la provoquer. Cette troisième figure est celle de la surimpression. Elle associe le visage de celle qui écrit, la voix qui énonce le contenu de la lettre et un mouvement de caméra dynamique. Dans les deux films adaptés de Henri-Pierre Rocher, cette figure advient dans les toutes dernières minutes. Au comble de la passion, de la violence exprimée des sentiments lorsque la confession est la plus crue. Dans Jules et Jim, Catherine annonce avec fièvre à Jim qu'elle est enceinte de lui, tandis que défilent rapidement derrière elle les paysages qui ont donné lieu à d'amples images aériennes et qui ont vu se déployer le lyrisme et la radicalité des sentiments de la jeune femme.
Mulia venait de trahir son secret, dévoilant en même temps la violence et la force de son amour si longtemps contenu. Anne la raccompagnait au pays de Galles comme une blessée. Voici la lettre d'adieu que Muriel adressa à Claude.
Claude, vous le savez, Anne m'a parlé enfin d'une crainte de me faire mal. J'ai été remplie d'horreur. Maintenant, je suis calme. Je sais qu'Anne vous aime et qu'elle mourra sans changer d'idée. Elle vous a aimé la première. La renonciant sans amour quand elle nous a voulu ensemble en Angleterre. Mon égoïsme a empêché de deviner. Elle vous a apporté à moi. Elle a presque réussi à nous fiancer. Si une femme comme Anne ou comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Claude, voudriez-vous avoir deux familles qui soient sœurs? Anne et moi, nous aimons le même homme, c'est tragique, mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie, mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Dans une heure, je pars pour l'Angleterre. Je vous demande pardon pour notre long baiser.
Pour la première fois, Claude fut atteint profondément. Lui qui avait tant fait souffrir découvrait la souffrance à son tour. Il sombra dans le désespoir. Il restait des jours entiers enfermé dans l'obscurité, doutant de tout et même de sa propre identité. Il attendait le sommeil en répétant à voix basse « Je ne suis personne, je n'existe pas, je ne comprends plus rien à la vie. »
Voilà, je vais essayer de retrouver dans Jules et Jim la figure correspondante.
Je crois être enceinte. Viens, Catherine.
Gilberte, donne-moi du papier à lettres, s'il te plaît. Catherine, je suis au lit, malade, hors d'état de me lever. Je n'ai pas non plus envie d'aller te voir, enceinte probablement de l'autre. Car ce n'est pas notre pitoyable dernier adieu qui a pu faire ce que notre amour le plus fort n'a pas réussi.
Le plus fort n'a pas réussi. Tu as raison, je ne crois pas un mot de cette histoire de maladie. Je vais lui écrire tout de suite et lui dire que tu veux le voir. Cher malade imaginaire, venez nous voir dès que possible. Catherine attend une lettre de vous. Écrivez très court car ses yeux sont fatigués. Elle ne peut lire que les grosses écritures.
Catherine croit que je n'étais pas vraiment malade. Moi, je me demande si elle attend vraiment un enfant. De toute façon, j'ai peu de chance d'en être père. Bien des raisons justifient mes doutes. Notre passé, Albert et tout le reste. Puisque tu sors, tu peux me bosser cette lettre, s'il te plaît?
Bien sûr.
Merci.
Tiens, justement, il y a une lettre pour toi. Je m'en vais, je vais être en retard.
Merci.
À tout à l'heure. Je t'aime, Jim. Il y a tant de choses sur la terre que nous ne comprenons pas et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim. Prosterne-toi. Je suis sûre, absolument sûre, que c'est toi le père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Tu vis en moi. Crois-moi, Jim. Crois-moi. Ce papier est ta peau. Cette encre est mon sang. J'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite.
Mon amour, je te crois, je crois en toi, je me prépare à partir vers toi. Quand je rencontre un morceau de bon en moi, je sais qu'il vient de toi.
Il s'était promis jadis de ne jamais plus téléphoner, craignant d'entendre leur voix sans pouvoir se toucher. Leurs lettres étaient 3 jours en route, ils échangeaient un dialogue de sourds.
Bien des raisons étaient mes doutes, notre passé, Albert et tout le reste. Je ne penserai plus à vous pour que vous ne pensiez plus à moi. À présent, vous me dégoûtez, et j'ai tort car rien ne doit dégoûter. Mon Jim, ta grande lettre bouleverse tout. Ce matin, je me suis dit, dans 2 jours, il sera là, lui, et pas une pauvre lettre. Rassemblons vite nos duretés d'avant-hier. Or, elles ne viennent pas. Jim, viens quand tu peux, mais peu bientôt. Arrive, même tard dans la nuit.
Enfin, Jim reçut une lettre de Jules.
Votre petit enfant s'est éteint. Au tiers de sa vie prénatale, Catherine décide désormais le silence entre vous.
Ainsi, à eux deux, ils n'avaient rien créé. Jim pensait... C'est beau de vouloir redécouvrir les lois humaines, mais que cela doit être pratique de se conformer aux règles existantes. Nous avons joué avec les sources de la vie et nous avons perdu.
Voilà, et donc je suis désolé, on se passera d'images d'Adèle H. Je voulais Je vous les décrirai pauvrement. Dans les deux anglaises, donc, l'extrait qu'on a vu avant, la surimpression intervient au plus fort de la passion. Muriel vient d'apprendre que sa sœur et Claude ont été amants. Elle avoue à ce dernier, à son tour, un amour absolu et rompt définitivement avec lui. Là encore, la caméra balaye des paysages déjà vus, hein, on vient de le voir et dans Julie et Jim et dans les deux anglaises. Donc ce sont des paysages que nous avons déjà vus dans le film. Peut-être ceux que la femme traverse en train pour s'éloigner de son correspondant, dans le cas des deux anglaises. Ces paysages qui sont balayés donc dans le laps de temps qu'il faut à la lettre pour lui parvenir. La surimpression est ainsi tout à la fois mouvement, éclat de lumière, vitesse, perception troublée et mesure de l'éloignement. Elle manifeste aussi bien la teneur de la lettre que son trajet, la fièvre des sentiments, aussi bien que le mouvement qui les porte dans l'écriture. Plus explicite encore est la séquence d'Adèle H. Elle démarre comme les deux autres sur le visage disant sa lettre, hein, le visage de l'actrice, d'Isabelle Adjani, qui dit le contenu de la lettre, avec en surimpression un travelling avant sur des flots agités, mais s'ajoute en dernier lieu une troisième image superposée, celle d'une carte ancienne dont le champ s'élargit en zoom arrière d'Halifax à l'océan Atlantique, puis à Guernesey, soit du lieu d'expédition au trajet de la lettre. Ici, la passion ne se dit pas directement à l'homme aimé, c'est une lettre adressée à Victor Hugo, et cette passion transparaît dans le fantasme d'une union avouée, exposée, imposée aux parents réfractaires, puisque c'est une lettre dans laquelle Adèle dit qu'elle vient de se marier avec le lieutenant dont elle est amoureuse, ce qui est parfaitement fou. L'océan, donc, dans Adèle H, n'est pas seulement le signe de la distance à parcourir pour toucher les correspondants, ce n'est pas seulement un espace géographique, c'est, depuis le début du film, le motif ambigu de la folie, de la passion, de l'accomplissement et de la perte de soi. Cinématographiquement, ce sont ces vagues qui engloutissent la jeune fille lors de ses cauchemars, mêlant à son propre destin celui de sa sœur Léopoldine. C'est son image encore qui clôt le film, l'image de l'océan, alors que la silhouette d'Adèle sur un rocher de Guernesey accompagne cette déclamation, je cite, « Cette chose incroyable de faire qu'une jeune fille marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde pour rejoindre son amant, cette chose-là, je la ferai. » Fin de citation. Ce sont ces mots, en l'occurrence, qui marchent sur la mer, c'est-à-dire littéralement, qui échappent à la raison. Dans ces trois séquences, il est indéniable que Truffaut associe l'écriture, et singulièrement l'écriture épistolaire, à un mouvement de soi aussi violent qu'immaîtrisé. Encore une fois, ce n'est pas tant le contenu des lettres auquel il chercherait une équivalence visuelle, cette équivalence de l'adaptation dont Julie a parlé tout à l'heure, contre laquelle il s'élevait déjà 15 ans avant dans son fameux article « Une certaine tendance du cinéma français ». Non, c'est bien l'acte d'écrire qui est ici transposé à l'écran. C'est-à-dire non seulement la passion, non seulement la violence, mais la décision de les exprimer et de leur choisir une forme singulière. Une lettre vers Victor Hugo, vers Claude ou vers Jim, ce sont autant de durées, de traces, qui irradient dans tous les sens du temps, vers le passé comme vers l'avenir, et qui pourtant sont saisies dans le présent de leur effectuation. Les plus belles envolées, les plus belles courses de ces mots se donne dans ces trois superpositions où défile l'histoire entière des personnages que l'océan, les vallées profondes ou les allers-retours en train évoquent respectivement. Que ces figures choisies par Truffaut correspondent à la puissance de l'écriture, beaucoup plus qu'à celle des sentiments exprimés, un seul point commun majeur suffit à le corroborer. Dans les trois lettres qui déclenchent ces superpositions et ces amples travelling, à chaque fois, les informations transmises sont fausses ou mensongères. Muriel fait mine de quitter Claude à jamais, et il suffira de quelques scènes pour qu'elle devienne à son tour sa maîtresse. Catherine annonce un enfant, lequel ne naîtra pas. Adèle, enfin, fait part d'un mariage qui n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est donc pas tant la chose désignée, la réalité transmise, qui donne ici aux images leur puissance, c'est la décision de l'écrire, c'est le choix, c'est l'écriture de la lettre. Il y a encore bien des scènes de correspondance épistolaire filmées par Truffaut et de bien des manières. Ce n'est pas un répertoire de mise en scène qui nous importe ici. Ce qui, au-delà de la mise en film, me semble intéressant, c'est la capacité de ces correspondances à faire image. C'est leur façon d'imposer au film, pourrait-on dire, une dimension différente, d'obliger celui-ci à se charger de figures spécifiques. Ce cadre qui soustrait le scripteur au monde environnant, qui l'arrache aussi bien à la description qu'à l'altérité, à l'objet qu'à l'interlocuteur. Ou bien ces surimpressions que Deleuze aurait pu citer comme exemple d'image cristal qui permettent de croiser les mots, le visage et le temps. Figures spécifiques, images nouvelles et complexes, inventées par le film, elles sont de pure création. En définitive, y a-t-il une illustration plus adéquate que cette figuration des échanges épistolaires pour rendre compte de la conception que les cinéastes de la Nouvelle Vague se faisaient de la mise en scène? Truffaut utilise la puissance graphique de celle-ci. Cadre, surimpression, mouvement de caméra, fulgurance des effets de montage. Il crée un sens qui n'appartient qu'à l'image. Il donne à ressentir des émotions qui n'appartiennent qu'au cinéma. Et pour autant, il ne les déconnecte pas du récit. Contrairement aux effets formels des avant-gardes qui mettent en question la logique narrative, ceux-ci viennent l'enrichir, lui donner de l'épaisseur, de la complexité. C'est ce qui a caractérisé très vite la voix truffaldienne, à mi-distance entre ceux de ses contemporains qui optèrent pour des récits classiques et ceux qui multiplièrent les provocations de tous ordres. Ces innovations formelles sont manifestes, même si on l'oublie souvent aujourd'hui, mais elles sont toujours dans la logique d'un récit qui subsume grâce à elles celui du scénario. Enfin, ces figures de l'épistolaire sont importantes, il me semble, parce qu'elles obligent l'image à prendre en charge non plus seulement un objet ou même un regard, mais un mode d'expression, un geste d'expression, pourrait-on dire, une poétique, un art. C'est le statut réflexif du cinéma que le réalisateur appela constamment de ses vœux, à l'instar de toute une génération. Merci et désolé encore pour ces... pour cette paradoxale absence d'image.